Si la concurrence est en théorie vertueuse, la réalité est qu'il existe un très grand nombre de marchés où règnent des monopoles ou des oligopoles constitués d'un petit nombre de firmes aujourd'hui globales. C'est vrai dans une grande partie de la fabrication des matériaux de base, acier, aluminium, verre, dans l'industrie manufacturière, aéronautique, automobile, matériel informatique, mais aussi dans les services, en particulier numériques, avec les GAFAM. Il faut donc rendre compte de cet état de choses. Il y a en vérité deux raisons qui font que la structure naturelle d'un marché est oligopolistique, voire monopolistique. La première raison est ce qu'on appelle les économies d'échelle dans la production. On est en présence d'économies d'échelle dans la production quand les techniques de production sont telles qu'une firme plus grande qu'une autre, c'est-à-dire produisant plus qu'une autre, bénéficie de coûts moyens plus bas, du moins jusqu'à une certaine taille. Par exemple, aujourd'hui, le coût d'assemblage d'une automobile est minimum dans une usine capable d'assembler au moins 400 000 véhicules par an. La fabrication d'acier en haut fourneau atteint son coût minimum pour des installations d'au moins 6 millions de tonnes par an. Des réacteurs nucléaires civils de 100 MW de puissance, que l'on n'a pas développés, mais qui sont parfaitement réalisables, songeons aux réacteurs nucléaires des sous-marins d'attaque français dont la puissance n'est que de 50 MW, ces réacteurs de 100 MW auraient des coûts de production d'électricité bien plus élevés que les centrales aujourd'hui construites dont la puissance tourne autour de 1 000 MW par réacteur. En conséquence, dans un pays dont le marché de l'automobile serait de 800 000 véhicules par an, il n'y aurait place que pour deux usines d'assemblage, du moins si l'on souhaite que les consommateurs bénéficient du coût d'assemblage minimum. On dira que la structure naturelle de ce marché est de deux usines. Mais en vérité, la taille optimum d'une firme automobile et non pas d'une simple usine d'assemblage, celle qui minimise le coût de fabrication de la totalité d'un véhicule, cette taille est bien supérieure. Elle se situe plutôt aujourd'hui entre 5 et 10 millions de véhicules par an. La raison en est qu'il y a des économies d'échelle encore plus importantes que dans l'assemblage dans d'autres fonctions industrielles. Par exemple, la conception des nouveaux modèles. Si bien que le marché mondial de l'automobile est un oligopole d'une dizaine de grandes firmes généralistes avec des firmes plus nombreuses sur des niches de produits. Telle est donc la première raison pour laquelle on trouve des structures naturelles de marché monopolistiques ou oligopolistiques. La seconde raison des monopoles et des oligopoles sont les économies de réseau. Une boutade dit que le téléphone serait une invention parfaitement inutile si la seule ligne dont vous disposiez était une ligne avec votre belle-mère et que vous ne pouvez supporter votre belle-mère. Il est clair en effet que plus il y a d'usagers du téléphone, plus le téléphone est utile à chacun des usagers. C'est ainsi que les services numériques fournis par Google ou Facebook, par exemple, les avis des clients fournis par Amazon, Booking ou TripAdvisor sont d'autant plus utiles à chaque utilisateur que ceux-ci sont nombreux à utiliser la plateforme. Cela conduit très naturellement au phénomène désormais bien connu, omniprésent dans le numérique, le gagnant rafle tout, the winner takes all en anglais. Dans ce cas, la structure naturelle de marché est également un monopole. Il est vrai que les monopoles du numérique sont en compétition schumpeterienne entre eux sur les marges de leur cœur d'activité et pour saisir les opportunités de créer de nouveaux marchés. Voyez à quel point les GAFAM s'intéressent par exemple aux véhicules autonomes. Mais ce sont sans conteste des profits de monopole considérables sur leur cœur de métier qui expliquent les valorisations boursières astronomiques acquises en quelques années par ces start-up. L'État, s'il poursuit l'intérêt général, doit-il réagir devant des situations de monopole et d'oligopole ? Selon le modèle et la norme, à savoir la maximisation du surplus total du chapitre précédent, la réponse est oui. Dans le cas des oligopoles, l'État devrait au minimum s'assurer que ces oligopoles sont des oligopoles compétitifs, c'est-à-dire qu'ils se comportent comme dans le modèle de Nash-Cournot que nous avons eu, et non pas des oligopoles collusifs, où les membres d'oligopoles s'entendent pour produire exactement la quantité que produirait un monopole, mais pour se la répartir entre eux et donc se répartir entre eux les profits. L'État doit donc veiller à ce que les membres d'un oligopole ne s'entendent pas sur les prix au détriment des consommateurs, et il doit également veiller à ce qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée artificielle dans une industrie élevée par ceux qui sont déjà dans l'industrie. C'est ainsi que Microsoft a été contraint de fournir son code Windows aux développeurs de logiciels, de manière à ne pas se réserver le développement d'applications compatibles avec Windows comme les navigateurs, et qu'ainsi, il existe une concurrence sur le marché des applications, même si Microsoft est en position dominante sur celui des systèmes d'exploitation. S'agissant d'un monopole naturel, c'est-à-dire d'un monopole qui est capable de produire à coût minimum toute la demande qui s'exprimerait à ce coût, l'État doit, on le verra dans un chapitre ultérieur, réglementer le prix pratiqué par ce monopole. Quant au monopole du numérique, l'objet central de la réglementation ne peut pas être le prix auquel les services sont accessibles, puisque la plupart sont des marchés dits double face. Le service est gratuit pour l'utilisateur, mais payé par les publicitaires à qui le monopole vend des données collectées sur les utilisateurs. L'objet de la réglementation devrait bien plutôt concerner ici la propriété et le contrôle de l'usage des données personnelles.